Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et en cette période de Pâques, nous vous proposons de revisiter le miracle de la résurrection. Oui, rien que ça. Mais à la sauce scientifique. Un organisme attire en effet depuis de nombreuses années l'attention de la communauté, tant ses capacités semblent relever du surnaturel. Trempez-le dans l'azote liquide, pas de problème. Faites-le bouillir. Ça passe. Les UVC ou les rayonnements cosmiques, fatals pour le commun des mortels, le chatouillent à peine et lui confèrent même la brillance d'un néon. Quant à la pression, il résiste tranquillement à celle que l'on trouve à plus de 180 km de profondeur sous la Terre. Balèze. Mais il va plus loin encore. Car si notre invité mystère a besoin d'eau pour fonctionner, il peut, en l'absence de celle-ci, se mettre en état de vie suspendu au point que son corps ne ressemble plus qu'à une vieille chips et attendre qu'une goutte d'eau vienne le ressusciter. C'est aussi simple que ça. Alors, quel est ce super organisme qui concentre à lui seul tant de super pouvoirs qu'on le qualifie d'extrémophile ? C'est pas un poisson d'avril, c'est un tardigrade. Un métazoaire qui ne dépasse pas la taille d'un millimètre et qui résiste à tout depuis plus de 500 millions d'années. Ils sont tout autour de nous, pourvu qu'il y ait un peu d'eau et de verdure, et se baladent avec une dégaine adorable d'ourson miniaturisé. Et la chance que nous avons, c'est que Montpellier héberge un des deux seuls élevages de tardigrades en France. C'est à l'Institut des biomolécules Max Mousseron, sur le campus CNRS, et c'est là que nous vous emmenons aujourd'hui pour un reportage long format avec Simon Gallas et Myriam Richaud, tous les deux chercheurs dans le labo Nématodes et Tardigrades, assistés de Morgane Pellerano, ingénieur et éleveur. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Alors bonjour, je suis Simon Gallas, je suis professeur à l'Université de Montpellier, faculté de pharmacie et chercheur au CNRS IBMM.
Donc bonjour, je suis Myriam Richaud, je suis maîtresse de conférence et donc je fais ma recherche à l'IBMM au CNRS et mon enseignement à la faculté de pharmacie Montpellier.
Bonjour, je suis Morgane Pellerano, ingénieur au CNRS et je m'occupe de l'élevage des tardigrades.
Les tardigrades, ce sont des petits animaux qui font autour de 1 mm, qui sont présents sur toute la planète, depuis les fonds des océans et jusqu'au sommet de l'Himalaya. Et ce sont des organismes en fait, qui existent depuis 500-600 millions d'années sur la planète. Ils ont beaucoup de capacités de résistance, puisqu'ils ont résisté à 5 extinctions d'espèces majeures. Ils ont connu la planète alors que les plantes à fleurs n'existaient pas. Donc en fait, ils ont résisté à tout ça, ils sont parvenus jusqu'à nous. Ils font partie des extrémophiles, donc des organismes qui sont capables de résister le plus au stress, alors que les mêmes stress ont tué toutes les autres espèces.
Et qu'est-ce qu'on fait ici? On les élève, les tardigrades?
Oui, on élève les tardigrades, donc on les maintient et on les cultive dans des boîtes de pétri, en milieu liquide. Et donc comme ça, on multiplie les populations et on a ici deux élevages permanents de tardigrades, de deux espèces, l'espèce Ramazotus varior natus et l'espèce Ipsibus exemplaris.
Voilà, il ressemble à une sorte de petit ourson avec, il a quatre paires de pattes avec des griffes au bout. Il a tendance à marcher un peu, oui, bizarrement. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il ressemble à un petit ourson d'eau. On les élève dans un milieu qui est de l'eau volvique et ils se nourrissent exclusivement d'algues. Donc on est en même temps, on fait de la culture d'algues au laboratoire et une fois ou deux par semaine, je change le milieu et je leur donne des algues pour qu'ils puissent manger à leur faim.
C'est une espèce qui vit que dans l'eau?
Disons qu'ils ont besoin d'eau pour être précis, mais vous les trouverez en fait de partout du moment où vous avez de la chlorophylle, du vert, c'est-à-dire dans les lichens, dans les mousses, donc vous en trouverez de partout. Mais pour qu'ils vivent idéalement, il faut qu'il y ait une présence minimum d'un petit peu d'eau.
À l'origine, tous les tardigrades étaient marins. Ils se sont adaptés au milieu terrestre à l'occasion de la dérive des continents, parce qu'on est sur une période de 600 millions d'années quand même. Et certains tardigrades, qui avaient déjà à l'époque quatre paires de pattes, eh bien, se sont adaptés au milieu terrestre, mais ils font partie de ce qu'on appelle la méiofaune. Alors la méiofaune, c'est tout un ensemble de bestioles avec des nématodes, des rotifères et des tardigrades qui se cachent dans des mousses, dans des lichens, parce que ce sont des milieux qui sont hydratés. Et dès qu'un tardigrade perd une pellicule d'eau à la surface de son corps, il engage un système actif de mise en résistance qui va le protéger de la déshydratation. Ce qui veut dire que tous les tardigrades terrestres, il y a à peu près 1400 espèces connues aujourd'hui, gardent cette mémoire de lorsqu'ils étaient tous marins.
Et alors, du coup, le tardigrade, nous, on en entend parler un peu, on a l'impression que c'est un animal qui est immortel. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ?
Alors, on considère que le tardigrade est immortel, tout simplement parce qu'il est très très résistant. Comme on l'a dit précédemment, c'est un extrémophile, et donc du coup, il va pouvoir résister à des températures très importantes, qu'elles soient très hautes ou très basses. Donc, on va pouvoir les congeler sans aucun problème, les placer dans l'azote liquide. On va pouvoir les faire bouillir aussi, et ils vont résister à tout un tas d'autres paramètres, comme la pression. Donc, on peut les soumettre à une pression de 7,5 gigapascales, qui est à peu près la pression qu'on peut avoir à 180 km en dessous de la surface de la Terre. Donc, c'est vraiment extrême. Il supporte également tout ce qui est rayonnement. Donc, rayonnement UV, rayonnement cosmique, il a été mis dans l'espace. Donc, c'est vrai que le fait qu'il soit résistant un petit peu tout ça, on considère qu'il est un peu immortel, en tout cas hyper résistant.
Et sinon, il vit combien de temps ?
À l'état hydraté, donc à l'état actif, s'il est tout le temps avec une pellicule d'eau, comme on l'a dit précédemment, du coup, il va vivre à peu près 4 mois. Mais par contre, ce temps est complètement élastique parce que dans la nature, il va jamais être dans un milieu aqueux en permanence pendant 4 mois. Il va être soumis à des déshydratations, réhydratations, et du coup, le temps est complètement extensible.
Vous avez dit justement qu'on le trouvait depuis 600 millions d'années, c'est ça ? Comment on le sait, ça ?
Il y a des ancêtres communs aux tardigrades qui existent depuis cette période, notamment les vers de velours, qui sont beaucoup plus gros. Et ce que l'on sait, c'est que l'ancêtre commun qui a donné naissance aux tardigrades, mais également aux vers de velours, qu'on trouve dans la région un petit peu subtropicale, eux, ils peuvent mesurer 7 cm. Ce que l'on sait, c'est que en regardant leur génome, on s'est rendu compte qu'il y a des similitudes entre ces deux types d'espèces d'invertébrés, tardigrades et vers de velours. Et on a observé que chez les tardigrades, en lisant les gènes qu'ils ont sur leurs chromosomes, ils en avaient perdu beaucoup. Et on pense qu'il y a eu une miniaturisation des tardigrades, lorsqu'ils étaient encore au fond de l'océan, pour acquérir, alors c'est pas un cas unique, c'est arrivé avec des insectes aussi, mais pour acquérir une miniaturisation par perte progressive de certains gènes qui ont rapetissé l'animal complètement, de telle manière à ce qu'il atteigne une taille qui n'excède pas celle d'un grain de sable pour se cacher et pas se faire manger.
Vous y avez un petit peu répondu. Justement, au début où j'entendais parler des tardigrades, je me demandais si c'était comme les acariens, c'est-à-dire qu'on en avait partout autour de nous, mais qu'on les voyait pas.
En fait, des tardigrades, il va y en avoir partout à partir du moment où il y a du vert. Donc, dans la nature, on va retrouver des tardigrades contre les arbres, sur les troncs d'arbres, au niveau des lichens, des mousses. On va en trouver dans la pelouse. Enfin, dès qu'il y a du vert, il y a du tardigrade. Et pour la petite anecdote, il y a même des étudiants dans leur cadre de leur projet de terminale qui cherchaient des tardigrades un petit peu partout et qui en ont trouvé sur le panneau d'entrée d'un village. En fait, il y avait un petit peu de verre avec un peu d'algues qui était dessus, elles ont récupéré, mis sous microscope, il y avait du tardigrade à l'intérieur. Donc dans la nature, il y en a à peu près partout. Dès qu'il y a du verre, il y a du tardigrade.
Alors, il y en a partout et il y en a qui se promènent partout aussi. Parce que ce que l'on sait, c'est qu'il y a certains tardigrades, lorsqu'ils acquièrent leur état de résistance, c'est là où ils peuvent avoir une espérance de vie suspendue très très longue, plusieurs dizaines d'années. Mais en fait, dans cet état-là, ils résistent à beaucoup de stress, y compris le stress de l'exposition dans l'espace directement au rayonnement solaire. Et dans cet état-là, en fait, ce que l'on sait, c'est qu'ils peuvent se promener et résister. Ils peuvent traverser l'intestin d'un escargot, donc se laisser transporter comme avec un autobus, ou des oiseaux migrateurs qui vont faire le nord et le sud de l'Amérique du Sud.
Et est-ce qu'on sait pourquoi ils sont si résistants à tout ça, les tardigrades ?
On en est à une période d'inventaire, en fait, puisque c'est très compliqué d'étudier les tardigrades, parce que les premiers génomes qui ont été séquencés en 1996, ont montré qu'en à peu près 41% des gènes de tardigrades sont uniques aux tardigrades, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça fait. Et dès qu'on en prend un de ces gènes-là et qu'on le met ailleurs, c'est ce que nous faisons ici.
Quand on vous dit on le met ailleurs, on le met où ?
Dans un autre organisme, ça peut être une cellule humaine en culture, ça peut être un plant de tabac, ça peut être une drosophile. Nous, on s'amuse à réaliser ces expériences-là chez le nématode que nous avons ici. Et dès que l'on fait ça, on se rend compte que pris isolément, ces gènes-là ont des capacités énormes de protection de l'animal vis-à-vis des stress environnementaux.
Bien regarder dans le microscope, il y a des œufs.
À gauche, le petit point, vous allez voir, c'est les œufs.
Et ça fait quelle taille, ça, un œuf de tardigrade ?
Bah, le tardigrade en lui-même, il fait moins de millimètres, donc l'œuf, oh, il doit faire une dizaine, 100 micromètres, ouais.
On sort la boîte de pétri, on voit rien en fait à l'œil nu.
Non, on ne peut pas le voir à l'œil nu, malheureusement.
Mais on pourrait assister en direct à une éclosion de tardigrade?
On pourrait, hein, théoriquement, bien sûr, on pourrait, si on tombe au bon moment, on peut assister à une éclosion de tardigrade, bien sûr.
Et depuis quand on sait que ça existe, les tardigrades? Comment ils ont été découverts? C'est fortuit?
Non, en fait, c'est pas fortuit. En fait, ça a coïncidé avec l'invention des premiers microscopes. Et en fait, on a fêté l'année dernière les 250 ans de leur découverte, avec deux pasteurs essentiellement qui ont travaillé à peu près au même moment, qui est Johann Ephraim Inges, un pasteur allemand, qui les a premièrement décrits avec son microscope, et également un autre pasteur qui s'appelle Spallanzani de l'université de Modène, qui a également travaillé, et lui, par contre, ce qu'il a fait en plus, c'est qu'il a commencé à travailler et à détecter et observer les capacités de, à l'époque, ça s'appelait la reviviscence, un animal qui, partant de zéro d'un paquet de sable séché, est capable de se réveiller dès qu'on lui met une goutte d'eau sur la tête.
Et c'est réellement comme ça? On leur met une goutte d'eau et ils ressuscitent, en fait?
Absolument. Selon les espèces, ça prend plus ou moins de temps. Ou selon l'âge des tardigrades, ça peut prendre entre 10 minutes, une demi-heure ou 5 minutes. Voilà. Chacun le fait à son rythme.
Et donc tout à l'heure, vous disiez que vous preniez des gènes de tardigrades pour les mettre dans d'autres cellules et que du coup, ces cellules-là, elles pouvaient acquérir le potentiel des tardigrades. Est-ce que ça veut dire, enfin, c'est un petit peu de la science-fiction ça, mais est-ce que ça veut dire qu'on pourrait conférer ce pouvoir de résurrection à d'autres espèces qu'aux tardigrades?
C'est ce qu'on essaie d'étudier. En fait, il faut arriver à comprendre comment fonctionnent ces gènes uniques de tardigrades et voir ce que ça peut donner dans d'autres organismes pour espérer éventuellement aboutir à des choses pour traiter les pathologies, des thérapeutiques, des choses comme ça. Là, pour l'instant, on est vraiment dans une phase où on teste justement ces gènes.
Alors, ce qui est déjà connu, hein, c'est que par exemple, en 1996, un collègue avec lequel nous travaillons, qui est le professeur Takekazu Kunieda de l'Université de Tokyo, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un de ces gènes-là inconnus, d'accord, et il l'a mis dans des cellules humaines, en culture, et ensuite il a arrosé ces cellules-là avec des rayons X, donc ce sont des photons de haute énergie, et normalement ça brûle. Sauf que là, avec seulement ce gène-là de tardigrade, il a augmenté de 41% la survie des cellules humaines. La même expérience a été réalisée dans des plants de tabac, chez des drosophiles, dans des levures Saccharomyces cerevisiae. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on va chercher un de ces gènes-là, on trouve des propriétés pris isolément qui sont assez exceptionnelles. Les tardigrades, eux, ils les ont tous. Et donc, eux, leur stratégie, c'est protéger, réparer. Voilà. C'est leur job. Et donc, nous, isolément, on prend les gènes un par un et on va peut-être tomber sur un gène qui protège. Donc, c'est le cas de ce gène qui protège contre les rayons ou de gènes qui vont réparer. Mais il faut tester qui fait quoi dans cet orchestre moléculaire de fonction.
C'est pour ça qu'on dit des fois qu'ils ont des super pouvoirs.
C'est ça. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est que chaque espèce, en fait, a des super-pouvoirs qui ne viennent pas forcément de la même chose. Ils ont des mécanismes de résistance ou des mécanismes de réparation qui ne vont pas fonctionner de la même façon. Et comme on l'a dit, 1400 espèces de tardigrades différentes à ce jour, mais il y en a autant, probablement autant dans la nature qui sont encore à décrire. Et chacune fonctionne à la même finalité de résistance, mais va attraper les outils différents pour y arriver.
Là, dans le microscope, il y a des tardigrades secs depuis un an.
Mais là, donc là, si vous leur remettez de l'eau, ils vont se mettre à bouger, c'est ça?
Exactement, ouais. Je les ai desséchés l'an dernier pour différentes expériences. Et là, oui, exactement, si je leur remettais de l'eau, on va dire un quart d'heure, 20 minutes, ils vont se remettre à bouger. Petit à petit, ils vont se déplier, puis leurs pattes vont bouger. Et puis après, hop, ils vont commencer à marcher tranquillement.
Mais comment on définit cet état-là? Ils ne dorment pas, ce n'est pas du sommeil, c'est quoi?
Alors, le terme scientifique, c'est cryptobiose.
La cryptobiose, en fait, c'est un état de vie suspendu au cours duquel plus rien ne se passe. Alors ici, dans ce laboratoire-là, le docteur Meyer Michaud a fait des expériences depuis plusieurs années déjà, qui ont été publiées d'ailleurs dans des revues américaines, où on a montré en fait qu'à l'intérieur d'un animal, quand il est en état déshydraté de cryptobiose, toutes les structures internes restent intactes, sauf que rien ne se passe. Alors, on sait qu'il y a d'autres gènes uniques de tardigrades qui sont au travail pour faire gérer ça. C'est-à-dire, la gestion, c'est de gérer la perte de l'eau. Quand on perd de l'eau, on se déshydrate, mais en fait, on s'abîme. Sauf que là, certaines espèces tardigrades, les deux espèces que vous voyez ici ont cet équipement-là moléculaire, sont capables de fabriquer des gènes qui codent pour des protéines qui remplacent l'eau. Donc, à mesure que l'eau s'en va, il y a des éléments dans les cellules et dans l'organisme entier qui se mettent à la place et qui vont tout tenir jusqu'à ce que l'eau arrive, mais il n'y a rien qui s'abîme. Rien ne change, il y a une sorte de mini-miniaturisation qui fait que les tardigrades vont être en système de vie suspendu, ils attendent. Alors, après, il y a eu des mesures qui ont été faites il y a quelques années de respiration qui ont détecté qu'il n'y avait aucune respiration. Plus près de nous, il y a à peu près un an et demi, deux ans, il y a des collègues de Copenhague qui ont utilisé une des deux espèces que vous avez là, la plus grosse, celle qui est la plus grosse que vous voyez. Et ils ont déshydraté ces tardigrades-là, tel qu'on le fait classiquement, que vous avez vu sur les filtres là, au microscope. Et ils les ont descendus au zéro absolu. Et ensuite, un collaborateur de Corée du Sud a appairé le tardigrade déshydraté dans le zéro absolu avec des puces quantiques. Et il a réussi à faire passer le signal d'une puce quantique au tardigrade. Ce qui veut dire que pour obtenir ce résultat-là, cela veut dire qu'il n'y a dans l'animal aucun mouvement de molécules.
Enfin, ça ressemble à la mort un peu, l'état que vous décrivez.
C'est une vie suspendue. Oui. C'est pas la mort.
Il y a un accouchement. Celui qui est en bas, tu vois trois petites boules.
Oui.
Et ben, c'est des œufs.
C'est les œufs qui sont en train d'éclore. Non, alors d'accord, non, elle pond. Ça pond les tardigrades, du coup.
Alors, oui, on peut dire que ça pond. En fait, c'est des espèces hermaphrodites, donc il n'y a pas de reproduction sexuée chez les espèces qu'on a. Donc tout se fait sur le même individu. Et là, comme vous avez pu le voir, elle est en train de pondre trois œufs.
Oui, j'allais dire, il y en a trois. Combien en moyenne ça pond un tardigrade?
Alors, cette espèce-là, dans des conditions optimales, est capable d'avoir jusqu'à 13 œufs dans un individu.
Vu la taille, on dirait que les 3 œufs prennent déjà le même volume que le tardigrade qui est en train de pondre. Comment on peut en avoir 13 ?
L'œuf va pas forcément s'adapter, ça ne va pas grandir, mais en fait, tous les œufs vont prendre quasiment toute la place dans le tardigrade, et après, elle va pouvoir les pondre.
Et quand ils vont éclore, l'œuf, il fait quelle taille le tardigrade par rapport à un tardigrade adulte ?
Alors, la taille d'un bébé, ça va être pareil, l'ordre de 100 microns environ, hein, c'est ça, voilà. Donc, et il va grandir tout au long de sa vie jusqu'à atteindre sa taille adulte.
Et il se passe combien de temps entre le moment où l'œuf il est pondu et le moment où il va éclore ?
Oh, pareil, il va falloir quand même quelques jours, une petite semaine pour que l'œuf puisse éclore.
Et ils sont verts. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ils sont verts ?
Alors l'espèce là qu'on voit, elle est transparente, donc on voit les algues qu'ils ont mangées, donc indirectement on est en train de visualiser l'estomac du tardigrade.
Ils sont tous transparents comme ça, les tardigrades ?
Non, et d'ailleurs il y a des différences entre les deux espèces. L'espèce Dipsibus exemplaris est complètement transparente, alors que Ramazotus varionatus est beaucoup plus opaque, beaucoup plus grise on va dire, et en fonction des espèces il va y avoir des couleurs un petit peu différentes.
C'est pour cette raison là que dans le cadre de notre collaboration avec notre collègue de l'Université de Tokyo, il nous a envoyé également la version albinos du tardigrade dans lequel on ne voit pas à travers, pour pouvoir voir à travers quand on fait des observations en microscopie.
Ça, c'est les albinos que vous avez mis dedans ?
Oui, voilà, là, c'est les albinos.
Là, au milieu, c'est une image en microscopie électronique à balayage. Donc, on voit bien les petites griffes, en fait, sur cette image-là. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que les taxonomistes se basent pour repérer le nom des espèces, pour identifier les espèces entre elles. Donc, c'est la taille des griffes, le nombre de griffes, la forme, ce genre de choses.
C'est la même espèce que la première qu'on a vue, sauf qu'elle a eu une mutation sur un gène. Il fait qu'elle est plus marron et qu'elle est devenue blanche, d'où son nom albinos.
Il fait partie de quel ordre, le tardigrade ?
Il est complètement à part. En fait, du coup, il est rattaché à rien du tout. Il a vraiment son ordre à part, l'ordre des tardigrades.
Plus généralement, ça appartient à l'embranchement des ecdysozoa. Alors, là-dedans, on va mettre tous les invertébrés qui font des mues. Je dis bien que les invertébrés hein, qui font la mue. Et donc, qui fait la mue ? Le nématode. Il y a les insectes font des mues pour grandir, etc. Les tardigrades font des mues pour grandir. Et donc, ça, c'est à ce niveau-là, au niveau de l'embranchement des ecdysozoa, qu'on va retrouver les tardigrades, les insectes, les acariens, les arachnides, tout ce bazar-là, les coléoptères. Et après, quand on remonte au niveau taxonomique, au niveau de l'ordre, eh bien, en fait, on a les tardigrades qui partent de leur côté directement.
Et ici, vous en avez combien ? Vous avez une idée du nombre de tardigrades que vous élevez ?
C'est une très, très bonne question. On va dire que pour une boîte, comme vous voyez là, alors là, c'est là, il n'y en a pas énormément parce que je l'ai faite pour vous, mais sinon, je peux avoir une centaine d'individus par boîte et j'ai des dizaines et des dizaines de boîtes. Donc, on a un effectif qui est assez nombreux.
Et ça a un comportement social ou pas du tout ?
Ceux qui font de l'éthologie ne sont pas très très nombreux. Il n'y en a pas beaucoup qui en font. Pour le moment, il y a quelque chose qui a fait pas mal de buzz à un moment donné. C'était il y a 6-7 ans. C'est une étudiante de master, comme Angèle et Martin, dans une université en Allemagne, chez un collègue qui s'appelle Ralf Schill. Et il travaille, lui, sur une espèce de tardigrade où on a deux sexes. Et donc deux sexes, mâle et femelle, qui s'accouplent à un moment donné. Et ce qu'il avait demandé à cette étudiante de master, c'était de filmer un accouplement, ce qu'elle a fait. Mais elle s'est rendue compte qu'en fait, que l'accouplement il durait une demi-heure, il était stéréotypé. C'est-à-dire qu'il y avait des phases d'approche, de contournement, de masturbation, des trucs très compliqués, toujours les mêmes. Donc elle a décrit tout ça de manière très très bien, elle a fait un bel article scientifique, et elle a fait la couverture de Newsweek.
Puis vraiment, parfois, on a l'impression qu'il se lève, il se met sur les pattes arrière et il nous regarde, quoi. C'est,
Ouais, là, il est... Ouais,
c'est... Ah, non, je ne se fait pas.
Non, ben, c'est plutôt Ipsilus.
Non, non, là, c'est...
Ah, c'est Ramazotus.
Ouais, là, c'est l'albinos qui se lève. Alors, il le fait moins souvent
c'est
que...
C'est plus rare, ouais.
Ouais.
Ouais,
ils n'ont pas les mêmes comportements en fonction des espèces.
L'espèce Ipsilus, qui est la première qu'on a eue, on a l'impression qu'elle, alors ce qui n'est pas forcément vrai, mais on a l'impression qu'elle essaie d'interagir avec nous. C'est-à-dire que quand on le regarde sous le microscope, avec la lumière, elle a tendance à toujours regarder en haut. Et on a l'impression que, vu qu'elle a les petits yeux, en plus, qu'elle nous regarde. Ramazotus, c'est plus passif, c'est plus rare, donc c'est plutôt la tête en bas, on va dire. Donc les comportements sont un petit peu différents. Ouais.
Et c'est impossible qu'il nous voie.
Oui, c'est impossible qu'il nous voie. Non, c'est impossible. Ils n'ont pas d'yeux, de toute façon.
Ils n'ont pas d'yeux, ce qu'on a vu. C'est des faux yeux.
C'est des yeux avec des protéines qu'on appelle des opsines qui sont capables de capter la lumière, mais ça capte la lumière, ça capte pas l'intelligence de la lumière.
Et donc tous vos tardigrades sont dans les deux incubateurs qui sont là derrière.
Voilà, exactement. On en a aussi mis dans une chambre froide à 4 degrés. Alors là, ça ralentit leur développement, leur ponte et tout ça, mais ils survivent très bien.
Il y a beaucoup d'endroits où on élève des tardigrades en France.
Les élevages de tardigrades, alors il y a quelques espèces différentes de celles que vous avez vues ici à Montpellier qui sont élevées au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et il y a une espèce identique à celle que vous avez vue ici, Ipsilus exemplaris, celle qui est transparente, que nous avons donnée à des collègues de l'Institut CNRS juste à côté qui commencent à travailler dessus, mais depuis très peu de temps.
Donc il y a juste Montpellier-Paris, c'est les seules villes où on élève des tardigrades en France.
C'est ça.
Mais même dans le monde, hein, si on regarde à plus grande échelle, en fait, dans le monde, on n'est pas très nombreux. On doit être peut-être 100, 150 personnes à travailler sur les tardigrades. Il y a très peu de labos et donc au final, on n'est pas beaucoup d'équipes et de chercheurs à travailler dessus.
Il y a une contrainte scientifique et expérimentale, c'est que sur les 1400 espèces de tardigrades, actuellement dans le monde entier, il y a seulement à peu près une douzaine d'espèces qui peuvent être élevées en laboratoire parce qu'on peut leur donner à manger. On sait ce qu'elles mangent et on sait comment les élever. Et dans ces laboratoires-là, en fait, ce qui est malgré tout, en fait, on a très peu de laboratoires dans le monde qui sont capables d'élever des tardigrades, comme nous le faisons ici. L'espèce Ramazotus que vous avez vue et sa variante albinos, vous n'en trouvez que ici et à Tokyo, voilà, pas ailleurs. Et c'est pour ça qu'il est très 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 critique pour nous de maintenir ces élevages en place, parce que nous avons besoin de matériel d'observation pour pouvoir regarder ces espèces-là toute l'année. Si on attend que ce soit le printemps ou qu'on aille farfouiller dans les lichens ou dans les mousses pour en récupérer 4 ou 5 qui se courent après, scientifiquement, on ne pourra pas travailler.
Et on en découvre encore régulièrement des nouvelles espèces de tardigrades ?
Oui, oui. Ils en découvrent à peu près 2 par semaine.
Systématiquement, les chercheurs, quand ils vont dans la nature, les taxonomistes, et qu'ils vont faire de nouveaux prélèvements, quand c'est dans une nouvelle zone, en général, ils arrivent à trouver une nouvelle espèce de tardigrade, en fait. Donc.
Il y a une espèce, moi, que j'aime beaucoup, dont j'aime bien parler à mes étudiants à la faculté, à l'université. C'est une espèce qui a été découverte il y a 2 ans par des chercheurs indiens dans le sud de l'Inde. Et c'est une espèce qui n'était pas connue. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ce tardigrade-là, ils ont commencé à tester si, bon, c'était un petit peu résistant. Et donc, ils ont éclairé ces individus-là avec une lampe germicide. Donc, ces lampes germicides, ce sont des lampes qui délivrent des ultraviolets C, comme ici. Et les ultraviolets C, ça tue. Hein, voilà. Ça tue tout, n'importe quel organisme, et nous, ça nous brûle. Et au lieu de mourir, cette espèce de tardigrade, elle s'est allumée en bleu comme un néon de pharmacie. Donc, elle n'est pas morte. Donc, après, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, OK, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ils ont pris ces tardigrades-là, ils en ont fait du jus, et ils les ont mis sur un nématode que vous allez voir après, que Angela a dans la main. Et les nématodes, en fait, eux, si vous les éclairez avec une lampe germicide, ultraviolet C, ils meurent en 2 minutes, quoi. C'est hyper rapide, ça les tue. Et là, avec cette espèce de matelas de l'autre tardigrade, bah, en fait, ils sont pas morts. Donc, en fait, c'est quelque chose qui protège contre les rayonnements ultraviolets de très haute énergie, les ultraviolets C. Je vous rappelle que les ultraviolets C, on les voit pas, nous. Ils sont bloqués par la couche d'ozone. Donc, on sait pas ce que ça nous fait en vrai. Sauf Thomas Pesquet qui, peut-être, quand il est sorti de l'ISS, en a eu sur la tête. Mais nous, on sait pas. Donc, c'est très dangereux. Ça tue. C'est des lampes germicides. C'est utilisé pour décontaminer des outils médicaux, voilà, plein de choses. Et donc, ce tardigrade-là, il a une forte potentialité parce qu'il existe des maladies chez l'homme qu'on appelle génétiques, qu'on appelle des xeroderma pigmentosum, qui est plus connu sous le nom des enfants lune, qui concerne en fait des mutations qui empêchent la réparation de l'ADN au niveau de l'épiderme. Et comme l'épiderme, il reçoit les ultraviolets tout le temps, il est en permanence soumis à des mutations que nous réparons tout le temps, mais pas les enfants qui ont cette maladie. Et donc ce tardigrade-là, peut-être qu'il finira à terme par créer une nouvelle crème pour protéger ces enfants-là et qu'ils puissent aller dehors.
Et est-ce que ça peut être malade, un tardigrade? Est-ce que c'est sensible à certaines maladies?
C'est un des pathogènes, alors pas trop connu aujourd'hui, mais on connaît des pathogènes, quelques petits parasites, des copépodes, mais c'est pas aussi étudié et pas aussi connu que cela.
Vous nous avez confié tout à l'heure que les premiers tardigrades avaient un nom, les premiers que vous avez élevés. On peut connaître ces noms?
Bon, il y avait un peu de tout, hein, de toute façon. C'est vrai que la première semaine, quand les tardigrades sont arrivés, donc on les a commandés chez Sciento, qui était le fournisseur de l'espèce Ipsibus exemplaris. Et donc, quand ils sont arrivés, il y en avait très peu. Et donc, voilà, il y avait Albert, Norbert. Enfin, voilà, on a beaucoup joué avec les étudiants, justement, et ils avaient tous leurs petits prénoms. Et bien sûr, après, vu le nombre de tardigrades, on s'est vite arrêté. Mais les premières semaines, premiers mois, c'est vrai que c'était vraiment super au labo, parce que l'observation des tardigrades, on peut y passer toute la journée, quoi.
Allume la science, c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes régalés en présence de ces increvables tardigrades. Nous, oui. Merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.